Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast où je construis mon utopie. Depuis que j'ai pris la décision de changer la ligne éditoriale du podcast pour penser un système pour l'humanité, ça me fait toujours sourire quand je le dis, j'ai plein d'idées qui s'entrechoquent dans ma tête parce que c'est tellement énorme que j'ai quand même besoin de réexplorer les bases. Et c'est pour ça que je ne veux pas construire un système qui serait une adaptation de ce qu'on vit aujourd'hui, parce que j'ai besoin de m'affranchir de toutes les croyances, de toutes les structures qui existent déjà. Et j'ai besoin d'aller recreuser au fond du fond du fond, et surtout me dire, bon, pourquoi on crée un système? Pourquoi on fait société ensemble? Et donc j'avais besoin de répondre à des questions qui étaient multiples, mais qui sont de l'ordre du besoin, du désir. Est-ce que une société est là pour répondre à des besoins communs que nous aurions tous, par exemple de manger, d'être en sécurité, d'avoir un toit sur notre tête? Ou est-ce qu'une société doit aussi créer un désir comme un jeu? Il y a un but du jeu. Et si on vivait dans une société, par exemple, sans argent, imaginons des systèmes complètement différents. J'en n'en sais rien. Pour l'instant, je ne sais pas où tout ça va. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, j'écoute un peu les débats à la télé, les grands débats autour du débat national. Et j'entends parler énormément d'argent. Donc si on enlevait la composante argent, quel désir ou quel but aurions-nous? Quelle serait la règle du jeu qui ferait que on serait motivé par notre société? Voilà, comme ce qu'on trouve quand on joue à un jeu de plateau. Il y a un but du jeu et il y a des règles. Alors pour poser toutes mes questions, je me suis dit que j'allais appeler un philosophe. J'ai tout de suite pensé à Emmanuel Jafflin, et j'ai rencontré Emmanuel il y a quelques années. Il était venu intervenir lors d'un forum Apilab que j'organisais. On peut dire que c'est le philosophe de la gentillesse, puisqu'il a écrit 4 ouvrages sur le sujet, dont Éloge de la gentillesse. Mais ce que j'aime particulièrement chez Emmanuel, c'est son franc-parler et la modernité de son langage. Donc j'avais besoin, en plus, quand on est face à un philosophe, ça peut être un peu intimidant, hein, parce que l'érudition peut être intimidante. Mais heureusement qu'avec sa gentillesse, je vais pouvoir poser les questions les plus naïves et être reçue avec douceur. Donc c'est avec joie que je retrouve Emmanuel pour cet entretien. Bonjour Emmanuel.
Bonjour très cher, comment allez-vous, Johanna?
Je vais bien, et en même temps je suis dans la mouise. C'est pour ça que je t'appelle, parce que j'avais besoin que tu me sortes de là où je me suis fourrée. C'est-à-dire que j'ai décidé de construire mon utopie, mais c'est tellement énorme que j'ai besoin de tes lumières. Voilà.
C'est gentil de ta part, je te proclame nouvelle gentodame, mais utopique. Donc je ne dis pas que tu es une utopie, mais que du point de vue de ta noblesse morale, elle est présente, mais elle est présente pour quelque chose qui est absent, en l'occurrence l'utopie. C'est un peu le paradoxe.
Donc en fait, je voudrais réfléchir, parce que j'y vois plus vraiment clair dans ce qui se passe dans le monde, et donc on reçoit plein d'informations, on est bombardé de plein d'informations dans tous les sens, et j'aimerais me construire une image plus claire de quelle société je voudrais. Mais pour me construire même ce système, parce que je pense que je vais réfléchir vraiment au système, la première question qui m'est venue, je me suis dit, mais pourquoi nous les humains, déjà, est-ce qu'on doit, et pourquoi on se met en société? Et est-ce que c'est pour remplir des besoins, des désirs? Donc j'avais plein de questions et je me suis dit, je vais appeler Emmanuel, il est philosophe, il va peut-être pouvoir m'aider. Donc est-ce que toi, tu sais pourquoi on se met en société et à quoi sert la société?
Ah non, moi je suis comme toi, un philosophe, ça ne sait pas, ça c'est juste que ça ne sait pas, donc ça se pose aussi des questions, et de question en question, finalement, on avance sur les réponses. Alors pourquoi on s'organise en société? Il y a des raisons, je ne vais pas dire podcast, mais ex post, qu'on peut donner. C'est que maintenant, on est en société et on sait à peu près où on veut aller en fonction de nos désirs, en fonction de nos accords, en fonction de la vision de l'avenir qu'on a. C'est pas sûr, hein, qu'on ait toujours été organisé en société. Si on a 3 ou 5 millions d'années, il est possible que nous ayons vécu des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, hors société, de manière beaucoup plus séparée, pour pas dire individualiste, parce qu'à l'époque, je pense pas que l'individu ait eu cette conception de l'individu, ou que la personne ait eu cette conception de l'individu. Alors pourquoi on s'organise en société? Il y a un côté historique, même si c'est pas forcément très vieux, et puis il y a un côté du plaisir qu'on a à être ensemble. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous m'appelez, que tu m'appelles, et c'est pour cette raison qu'il y en a qui nous écouteront. Donc il y a un plaisir à être ensemble. Et troisièmement, je dirais qu'il y a. Donc le premier, il est historique, on n'a pas forcément été toujours en société. Le deuxième motif, c'est qu'on a du plaisir à être ensemble, même si ça fait aussi naître des colères, des conflits et des guerres. Et la troisième raison, c'est que on a envie de construire l'avenir. Et donc, souvent en société, alors c'est vrai qu'il y a des sociétés qui sont encore très traditionnalistes, c'est-à-dire que pour eux, l'avenir, c'est la reproduction de la culture du passé. Et donc, le présent est là pour faire le lien et le joint entre le passé et l'avenir. Nous, comme nous sommes des sociétés plus individualistes, il y a un vrai mystère sur le pourquoi on est en société. Est-ce qu'on est en société pour continuer de développer l'individu à un degré qui est quand même, je ne veux pas dire ultime, parce qu'il y aura peut-être encore des progressions dans ce sens, ou est-ce qu'on veut au contraire régresser les personnes comme individus pour renforcer la sociabilité, pour renforcer la vie en groupe, et donc pour renforcer l'humanité avec un grand H, parce qu'il est possible, ça c'est mon côté un peu. Pas technique, mais ni provocateur, mais en tout cas réflexif, c'est que plus une société développe l'individualité, ce qui est le propre de l'Occident, hein, il faut se dire que ça n'existe pas ailleurs, ni en Afrique, ni en Asie, mais même si ça commence à venir par mimétisme de nos valeurs et de notre idéologie et de notre culture et de notre histoire finalement assez récente, hein, mais est-ce que on va continuer de pousser l'individu dans la société, ce qui semble dire quand même qu'on risque de désocialiser la vie humaine et donc détruire à court ou moyen terme la société. C'est un peu ça le paradoxe, dirais-je, entre la personne et la société. Est-ce que la personne doit se vivre comme un citoyen, ou est-ce qu'elle doit se vivre d'abord comme une ou un individu? That is the question, c'est un vrai enjeu philosophique, bien sûr, mais je pense que c'est un vrai enjeu personnel, donc psychologique et évidemment éthique et évidemment politique. Est-ce qu'on doit faire des lois sans arrêt au service des individus, ou est-ce qu'au contraire, on doit faire des lois pour que la société fonctionne comme un groupe qui fonctionne?
Donc, en fait, quand tu dis la conception de l'individu, je la vois dans deux espaces. Dans le temps, tu as l'air de dire qu'avant, on n'était pas dans cette individualité, c'est ça, dans cet individualisme. Et que, aussi, si on regarde dans la géographie, quand je pense à des cultures comme le Japon, tu as aussi parlé
Oui,
de l'Afrique, tu pourrais.
où j'ai vécu, oui.
Est-ce que tu pourrais plus expliquer c'est quoi ces différences eux, ils sont plus assujettis au groupe, et le mot assujetti est forcément pas le
Ben,
bon, j'ai l'impression.
ben,
Mais
c'est pas que c'est
qu'est-ce
pas le bon, c'est que il est très bon, mais il est porteur d'une culture individualiste,
que. Ah,
justement.
voilà.
Et donc,
Alors, tu
moi, je
pourrais nous
fais. Moi,
les décrire un peu pour comprendre un peu mieux cette culture?
Mais absolument, je vais décrire à Johanna si elle est une individu ou une personne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En fait, je pense que l'individu, c'est une fiction culturelle. Honnêtement, c'est quoi un individu? C'est quelqu'un qui est indivisible, donc qui constitue un centre, une unité, un fondement de la personnalité. Et moi, je crois pas. Honnêtement, quelqu'un à qui on coupe un bras, deux bras, une jambe, deux jambes, ben, j'en connais un en l'occurrence, je ne sais pas si tu connais ce Philippe qui un jour a eu un
Ah
problème
oui.
d'antenne de télé, oui, il est monté, il s'est électrocuté, il est tombé sur le toit, les pompiers sont venus, il est allé à l'hôpital et régulièrement on lui coupait un membre et il avait perdu quelque part. Sa singularité d'individu autonome dans une société sportive et hyper individualiste. Et il a perdu dans la foulée son épouse. Et puis finalement, il a eu, après toute une phase de déprime, une vraie réaction, une vraie volonté vitale. Et il a vraiment prouvé sa personnalité, et désormais c'est une célébrité. Une célébrité qui nous a montré qu'on peut sortir d'une faille, on peut sortir d'une fracture, on peut sortir d'une amputation, et qu'au fond c'est parce qu'on fusionne avec le réel, j'ose pas dire avec la nature, mais aussi avec la société, puisqu'il fusionne avec la société, et il est invité pour parler de son expérience, parce qu'après il a traversé, il a fait le Paris-Dakar, mais il a traversé la Manche à la nage, en bras sans jambes, ce qu'on serait tous, ceux qui m'écoutent peut-être moins que moi, mais en tout cas toi et moi, probablement incapables de faire. Donc
Mais je
on voit.
comprends pas en quoi il est moins individu.
Eh bien parce qu'il est divisible, on l'a divisé 4 fois, on lui a piqué 2 bras, 2 jambes, et il reste une personne. Et dans un premier temps, il a été estimé par son conjoint, donc son épouse et la mère de ses enfants, ben finalement comme quelqu'un qui méritait pas d'être aimé et de rester avec lui. Et au fond, lui, il a montré que il était un moteur, il était un amour, il était un honneur, il était bien plus que le concept qu'on a d'individu aujourd'hui, qui est quelqu'un d'autonome, de sportif, de beau, de trafiqué par la chirurgie pour ne pas paraître vieillir, etc. Toute cette conception de l'individu qu'on a est une conception qui n'est pas réfléchie. On pousse finalement au sein de la société les personnes à se prendre pour le centre du monde, alors qu'en réalité non, on est des particules, on est des atomes, et quand on a compris ça, alors on a compris que ce qui est essentiel justement, c'est de faire groupe, c'est de chercher une autre unité que l'unité en soi. Pour le dire plus simplement, l'individu, c'est celui qui se prend pour une unité suprême, donc le centre du monde, alors que quand on a conscience de qui on est, on a conscience qu'on est une partie, une particule, et qu'à partir de ce moment où on a compris ça, on a compris que c'était intéressant, l'univers, le cosmos, la terre, la nature, le monde, et donc la société dans laquelle on vit.
Et donc notre singularité, j'utilise un mot un peu différent, mais notre singularité, je sais pas, je sais que tu es philosophe, donc ça m'impressionne un peu, j'utilise pas forcément les bons mots.
Eh bien, notre singularité, c'est d'avoir conscience qu'on est pluriel. On est nous-mêmes. Tu sais, un jour, je suis allé au Panama pour étudier les Indiens Kuna, que j'aime bien et à qui je dédicace un de mes livres, donc l'Apologie de la punition, parce qu'ils m'ont appris plein de choses. Et quand je suis arrivé chez celui qui m'invitait, donc je dis, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Alors, il me dit, moi, tu vois, je suis chef du village, sorcier, père de, fils de, cousin de. Et il se foutait de moi volontairement. Et je dis, pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu déclines toutes tes capacités? Il me dit, parce que nous, on existe dans notre pluralité, dans notre multiplicité, dans nos différences. Alors que vous avez une carte d'identité, si c'est aux États-Unis, c'est avec le fric que vous gagnez, si c'est dans votre société, c'est avec votre nombrilisme, et nous, ça n'existe pas, le nombril. On est tous une partie de ce groupe, de cet ensemble, de cette nature, qui fait qu'on est mieux quand on a compris qu'on était cette partie et cette particule, que quand on était ce centre, cette individualité indivisible qui se veut justement glorifiante et glorifiée. Le moi n'est pas. En quelque sorte, le moi n'existe pas. C'est une fiction qu'on doit en partie à Saint-Augustin ou à Descartes, mais le moi est une fiction du vocabulaire qu'on a voulu étendre à l'ontologie, à l'être, et on croit que chacun d'entre vous, toi Johanna, moi Emmanuel, on a un être et il faut le prouver aux autres. En fait, non, on n'a peut-être que du paraître ou de l'apparence, et l'essentiel, c'est qu'on puisse naviguer justement, peut-être en dessous, mais avec beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de synchronicité avec le monde que dans la séparation, dans la division, dont la conséquence, c'est quand même la société dans laquelle on vit, où les gens vivent, je sais pas moi, dans un immeuble où personne connaît personne, même s'il y a maintenant les voisins qui ont été lancés pour que les gens se rencontrent. Mais justement, pourquoi il a lancé ça, celui qui a lancé
Athanase Périfan, je l'ai interviewé aussi.
il a créé quelque chose qui est sain, mais qui vient d'une société malsaine parce que elle glorifie la personne sous le label de l'individu. Alors que je pense qu'il y aura un vrai boulot à faire, une vraie réflexion, des vrais discours à comprendre qu'on n'existe pas comme individu, on va disparaître un jour, on n'a pas toujours existé. Ce qui est intéressant justement, c'est ce passage où il y a du partage entre les uns et les autres, plutôt que de travailler beaucoup à l'école, puis faire des prépas, puis faire des grandes écoles, puis faire des boulots placés pour gagner beaucoup de fric, puis finir par mourir. Enfin, c'est tout un modèle dans notre société, dans les grandes écoles et dans les bons lycées, et même dans les autres moins bons lycées, qui survalorise l'individu. C'est une erreur. De toute manière, ma solution et ma conclusion, c'est que l'Occident, qui valorise l'individu. Alors là, reste assise, mais c'est quand même très paradoxal. Cette société qui valorise l'individu est une société qui est en train de se suicider, de disparaître. Pour une raison simple, c'est qu'elle aime tellement l'individu qu'elle n'en fait plus. Il ne faut plus faire d'enfants. On a une moyenne de fécondité qui est très faible, qui est en baisse. Et la France, par rapport à l'Allemagne et au Portugal, qui sont 1,4 enfants par femme, on est mieux, mais il en faut 2,1 pour qu'un groupe se reproduise. Donc paradoxalement, c'est que dans un groupe, on survalorise l'individu, on dévalorise le groupe. Ça te laisse sans voix. Hein.
Ah ouais, ça me sèche. Je sèche.
Tu sais, au Japon, à Tokyo notamment, pas ailleurs, mais à Tokyo, il y a 0,86 enfants par femme.
Mais je pensais que la société japonaise, justement, valorisait, c'est-à-dire que l'individu se fondait dans le groupe, justement, était au service du groupe.
Ah oui, mais ça, c'est un autre aspect avec le problème du consumérisme dans lequel ils sont entrés après la Deuxième Guerre mondiale et la survalorisation de l'individu. Les gens qui sont pauvres vont se mettre en prison volontairement pour ne pas dormir dans la rue.
Non, oui, j'ai vu ça, c'est beaucoup. Fou.
Et oui, mais très bizarrement en Asie, et c'est pas le cas partout au Japon évidemment, mais en tout cas à Tokyo, il y a cette idée que l'individu c'est le centre du monde et au fond c'est le centre de nulle part, c'est un néant. Il faudrait qu'on arrive à réfléchir à ça dans notre société pour que les personnes pensent qu'elles sont quelqu'un à partir du moment où, comme Ulysse, elles sont des personnes et pas des individus. Arrêtez de croire qu'on est individualiste, qu'on est individuel, qu'on est individu, c'est-à-dire qu'on ne peut rien diviser. Bien sûr que si, on peut diviser plein de choses. Et je pense à ce jeune Africain là, qui n'avait pas de situation. Il passe devant un immeuble où il voit tous les gens regarder en l'air et il s'aperçoit qu'il y a une petite fille qui est pendue au balcon et qui va tomber du 4e étage, je crois. Et lui, il a tout escaladé, il est monté, il a risqué sa vie, mais il n'y a même pas pensé. Il a repris la petite fille, il l'a remise sur le balcon de l'autre côté parce que le père n'était pas là. Et voilà, il ne s'est pas pensé comme individu. Alors que ceux qui restent en bas du balcon se disent, si je monte, il y a un risque, est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais pas tomber. On n'a pas vécu ça en France au Moyen-Âge. Hein. Les gens allaient faire la guerre, ils ne se posaient pas de questions de savoir s'ils allaient s'en sortir ou pas. Alors que maintenant, quand il y a une guerre, il faut savoir si on va être bien protégé, combien il y aura de morts. C'est notre société. Regarde, la polémique actuelle de la limitation de vitesse me fait mourir de rire. On veut réduire de 90 km/h à 80 km/h pour qu'il y ait moins d'accidents. Mais pourquoi pas de 80 à 70 et pourquoi pas de 70 à 50? Pourquoi pas dire aux gens, si vous restez des individus vivants, mais restez dans la maison où vous êtes né jusqu'à votre mort et vous vivrez 120 ans. On vit dans cette société très paradoxale et bardée de contradictions. Donc l'individu, c'est malheureusement pas une utopie, je dirais plutôt que c'est la source d'une dystopie, et c'est pas un hasard hein, si dans notre société actuelle on préfère, sur le plan du cinéma et des séries, créer des dystopies plutôt que des utopies, parce que quelque part, c'est pas si terrible que ça d'être un individu, les gens sont plus angoissés qu'avant, donc plus malades, c'est d'autres pathologies, je trouve que l'individu, c'est une invention, une originalité occidentale qu'il faut pas dévaloriser, mais il faudrait qu'on en voie les limites et qu'on se mette à vraiment y réfléchir collectivement. C'est pas une réflexion d'un philosophe, et je suis ni le premier ni le dernier à en parler, hein. Mais je pense que ce serait pas mal que les gens réfléchissent à cette question.
C'est marrant parce que je dois être très contaminée par le système parce que j'arrive pas à complètement voir ce qu'est une personne, quoique je sens un peu ce que tu es en train de dire. Mais par exemple, dans toute cette quête qui est d'identifier justement notre singularité, ça c'est de l'individualisme en fait ?
Ah bah oui, forcené. On n'existe que par ce qui nous singularise, ce qui n'a pas été le cas autrefois, ce qui n'a pas été le cas au Moyen-Âge. Les gens étaient dans leur partie sociale, la féodalité, la noblesse, le tiers-état, même s'il y avait des ambiguïtés. Et c'est toujours à un groupe qu'on appartenait. Et puis si on est au début du Moyen-Âge, il y avait des châteaux forts. Et le seigneur du château, il ouvrait le pont-levis pour que si le village était agressé, envahi, les gens viennent se réfugier. Aujourd'hui, je peux vous dire que s'il y avait une centrale nucléaire qui explosait en France, le président de la République, il se barrerait en avion rapidement. Hein. Oui, mais c'est pas le même monde, parce que Parce que l'individualisme. Parce qu'on croit qu'on. C'est ça le mot d'individu, c'est qu'on se croit indivisible. On est extrêmement divisé. Et ça a du charme d'être plusieurs, d'être pluriel. On est plein, on est plein de choses. On est plein de talents et de défauts. Et... Alors évidemment, après, il y a la morale qui va bloquer les défauts, mais qui reconnaît quand même la pluralité. Moi, je trouve ça assez pauvre. Et d'ailleurs, il y a quelques artistes qui arrivent à avoir une reconnaissance dans plusieurs domaines, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois théâtreux, chanteurs, mais c'est quand même l'exception. En général, il faut spécialiser dans une chose. Et beaucoup de gens m'ont dit, moi, j'ai essayé autre chose, mais ça marche pas. Il faut que je revienne à ce qui me fait connaître et reconnaître. Donc voilà, l'individu. Et je trouve que c'est une impasse, et de toute manière, notre société, et il lui reste 2-3 siècles, hein, pas plus.
Ah, ça me fait penser à une intervention que je viens de voir il n'y a pas longtemps d'Esther Perel. Alors Esther Perel, c'est une psychothérapeute belge, je crois. Elle est spécialisée dans la relation, notamment la relation de couple, et elle parle exactement de ça. Elle dit qu'en fait, la crise du couple aujourd'hui vient aussi du fait qu'avant, nos relations, notre place, la façon dont il fallait se comporter, étaient définies par les groupes dont on faisait partie, et notamment les groupes sociaux comme la famille. Bah en fait, maintenant, à cause de cet individualisme, on plaque tout sur un individu. Et il devrait remplir non seulement ses critères de singularité, mais aussi les attentes qu'on a, et sûrement ses attentes d'appartenance.
C'est complètement culturel. En même temps, il y a des choses mignonnes qui apparaissent. Par exemple, le fait de ne pas prendre sa voiture et de prendre... on ne fait plus d'autostop, mais enfin, on partage le fret de celui qui va nous emmener. Je ne vais pas donner de marque de système qui vous permet de trouver une voiture pour aller de Paris à Chartres ou à Orléans. Mais on voit bien que finalement, on a du plaisir à être en groupe, à parler dans la bagnole, alors qu'il y a encore quelques temps, quand ça n'était pas inventé, il y avait une personne par bagnole et des bouchons partout. Il y a toujours des bouchons, mais du coup, s'il y avait ce réflexe de se désindividualiser, de partager sa bagnole, son espace et son temps, et ben, c'est quelque part, on se particulariserait, ce serait plus intéressant et intelligent que de s'individualiser. Reconnaître qu'on est une particule, plus qu'un individu.
Donc ça fait partie de notre nature humaine de vouloir faire société ?
C'est une vraie question, l'inhérence à la nature et le fait de savoir si on a toujours vécu en société et si on y vivra toujours. Il faut savoir qu'il y a des gens, des nomades, des ermites, qui se détachent et qui sont bien quand ils sont tout seuls. Et c'est une vraie question, révolutionnaire intellectuellement, j'entends, que Jean-Jacques Rousseau se posait dans son deuxième livre, qui était un concours auquel il avait fait sa dissertation, hein, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et toute la première partie du livre, c'est de montrer que la société n'a pas existé. Donc il prend à rebours pour expliquer notre société ce qui a pu être. Il n'a pas de preuves, mais il fait une hypothèse qui est quand même très intéressante, consistant à se dire, est-ce que l'homme a pu vivre en dehors de la société. Et non seulement il dit que l'homme n'a pas du tout vécu dans la société, mais il n'a même pas vécu dans la famille, comme certains animaux. Il y a des animaux qui vivent en couple, des oiseaux,
en
des
meute,
mammifères,
ouais.
mais on meute, mais il n'y en a pas du tout. Et donc, il explique qu'il y a du désir, il y a de la pulsion, donc un mâle rencontre une femelle, il ne la viole pas parce qu'il n'y a pas de loi, et puis elle a peut-être du plaisir ou pas, bon, mais en tout cas, elle tombe enceinte, mais lui est déjà reparti depuis un moment. Et c'est la femme qui devient une mère qui va éduquer l'enfant, c'est vraiment le maximum du groupe. Et je trouve la thèse de Rousseau intéressante parce que si l'homme est naturellement bon, selon lui, c'est parce que lui-même est dégoûté de la vie sociale, de sa hiérarchie, de cet aristocratisme, de ce mépris pour la majeure partie de l'humanité. Et il fait l'hypothèse inverse consistant à dire l'homme est naturellement bon parce qu'il ne vit pas socialisé. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on vit en société... C'est compliqué d'être bon, c'est compliqué d'être heureux, c'est compliqué d'être connu. Et puis si on est reconnu, est-ce que c'est vraiment pour de bons motifs, etc., etc. Et je trouve l'hypothèse de Rousseau intéressante parce qu'au fond, on ne saura jamais s'il a raison. Mais il y a peut-être un individu, alors pas un individualisme, mais un séparatisme et un pouvoir de l'homme à ne pas vivre en groupe. C'est quelque chose qui est minoré dans le 21e siècle, puisqu'on voit bien que les villes s'agrandissent, hein. Il y a des villes de plusieurs millions d'habitants. Moi, j'ai vécu à São Paulo. Oh, on dit que c'est entre 23 et 25 millions d'habitants. Paris, à côté, c'est un bled, c'est un village. 2 millions d'habitants fermés par le périph pour qu'on n'aille pas trop les emmerder. Et en plus, on va remettre du péage comme au Moyen-Âge. On voit bien le retour au Moyen-Âge, d'ailleurs, entre parenthèses, dans lequel on est. Mais on voit bien quand même que les êtres humains sont devenus sociables depuis des milliers d'années ou des dizaines de milliers d'années. Et ils ont peut-être perdu leur être, qui était de vivre séparés. Mais donc maintenant qu'on vit dans le collectif, maintenant qu'on vit dans le regroupement, il faudrait se poser des questions, non pas pour que l'individu vive, puisque je vous ai dit, je t'ai dit l'individu, puis je vous ai dit aussi aux auditeurs, l'individu c'est en fait une fiction qui sépare les gens d'eux-mêmes, mais il y a deux types de séparation. Il y a peut-être une séparation naturelle, c'est la thèse de Rousseau, et puis il y a une séparation culturelle, sociale et historique, c'est l'Occident, où on fait de la personne un individu, où on la nie comme personne. Et donc l'ambiguïté et l'enjeu est là. Est-ce qu'on peut faire une société dans laquelle on nierait l'individu et où pour autant on ne serait pas des moutons, où notre inquiétante étrangeté, comme le dit Freud, pourrait s'épanouir et pas être forcément enfermé dans un moule. Moi, c'est ce que j'ai aimé quand je suis allé chez les Indiens. Alors, ils évoluent évidemment eux aussi, hein, puis ils sont maintenant un peu plus que dans une passerelle avec l'Occident, forcément, puisqu'ils ont été colonisés. Mais les Kunas ont un grand repli et ils ont été chassés par les Espagnols. Ils vivent sur des petites îles qui culminent à 20 cm de hauteur. Donc, ils vont, comme le niveau de la mer monte, je ne sais pas si tu suis, mais ils vont devoir retrouver le continent. Et ils sont très armés intellectuellement. Ça leur sera bénéfique pour se développer et pour essayer de prolonger leur originalité. Et moi, ce que j'ai aimé et que j'ai compris, en tout cas, dans cette société, c'est qu'il n'existe pas du tout comme individu. Donc il y a vraiment plein de relations implicites qui ne sont pas formulées, mais qui font fonctionner la société. Mais en même temps, ils ont des marges pour s'épanouir dans leur particularité, qui n'est pas du tout censurée par une morale niant-niant et nieu-nieu comme la nôtre, hein, où aujourd'hui, il faut surveiller les mots qu'on utilise si on ne veut pas être politiquement incorrect. Alors, c'est des plus petites sociétés, évidemment. Est-ce que dans des grandes sociétés comme la nôtre, où les Chinois et les Indiens sont 1,2 milliard, c'est possible? C'est une vraie question, hein.
Pourquoi eux, ils font société ensemble, là, ce groupe? C'est quoi leur but de société?
Ah ben, ils ont un but qui est nouveau, qui est issu de la colonisation, que nous, on n'a pas. Il faut un peu revenir en arrière, c'est que l'homme, pendant des millions d'années, était un animal fragile, avec une espérance de vie qui allait en gros jusqu'à 18 ans, quoi. Aujourd'hui, on commence à ne plus tout à fait être un enfant et de vivre jusqu'à 100 ans. Et donc, on a conquis le territoire et on a l'impression qu'on n'a plus d'ennemis, en dehors de conflits internes aux peuples et aux États. Et donc, on a une survalorisation de nous-mêmes qui vient d'une naïveté que les écologistes entrevoient, parce qu'ils en parlent rarement, mais ils préfèrent jouer la nature contre la culture et la vie naturelle contre la vie artificielle. Mais je pense que on ne voit pas notre faiblesse et que le principal ennemi de l'homme maintenant, c'est l'homme. Et il va falloir à un moment donné qu'on se mette à réfléchir sur quel est notre avenir. Alors pour revenir à mes Kunas, les Kunas ont une nouvelle arme ou un nouvel enjeu, c'est justement de ne pas se faire bouffer par l'Occident qui a colonisé l'Amérique latine et qui veut en faire des citoyens, des mauvais élèves à l'école, un culte qu'on va exploiter, qu'on n'aura pas de. Alors évidemment, il y en a qui veulent s'intégrer, qui viendront de bons élèves et qui seront chirurgiens ou hommes politiques ou je sais pas quoi, mais eux, ils ont compris que leur société était meilleure que la nôtre. Et j'avoue que c'est loin d'être bête et c'est très séduisant ce qu'ils vivent. Et justement parce qu'il n'y a pas d'individu et parce qu'ils veulent défendre le groupe. Mais ils veulent pas défendre le groupe. Parce qu'ils sont pauvres intellectuellement et parce que ils feraient un complexe devant nous. Ils ont l'impression qu'on est vraiment une société morbide, mortifère et moribonde, et que si eux arrivent à maintenir la cohésion, qui est aussi une cohésion spirituelle, évidemment, ils sont pas polythéistes, ils sont animistes. Et contrairement à ce que dit Auguste Comte, l'animiste, c'est pas le rayon inférieur de la religion, hein, qui fait que, selon le positivisme, il y aurait eu un premier degré où on croit que tout est Dieu, la pierre, la feuille, l'animal. Ensuite, le polythéiste qui réduit le nombre de dieux, parce que c'est pas tout le monde, mais c'est quelques-uns, qui d'ailleurs confrontent les hommes et couchent avec. Ça, c'est le polythéisme égyptien, grec, romain, et puis le monothéisme où il n'y a plus qu'un seul dieu, et puis l'homme est devant lui, esbobie et en même temps soumis. En fait, il y a beaucoup plus que ça dans cette religion qu'on dit primaire, et qui est très très riche, et qui est très en fusion avec la nature, justement. Et je pense que leur combativité, elle a été... ils sont affaiblis hein, par la colonisation, c'est évident, il y en a beaucoup qui deviennent alcooliques, qui apprennent l'espagnol et qui délaissent leur langue et leur culture, mais ceux qui résistent ont compris leur originalité et veulent jouer cette carte. Et je trouve qu'on devrait être à l'écoute d'un autre modèle de société si on veut faire évoluer le nôtre.
C'est-à-dire, dans cette société, qu'est-ce que ça cultive? La joie, comment tu la décrirais?
La joie, pour Spinoza, c'est le contraire de la tristesse, et c'est un juif pas pratiquant du XVIIe siècle qui le dit. La joie, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir. C'est-à-dire qu'un type qui est amoureux, ou une fille qui va voir son copain ou sa copine dans sa cité au 32e étage et qui a une panne d'électricité, qui n'a pas d'ascenseur, il monte les 32 étages sans sentir la fatigue. C'est ça la joie, hein, c'est ce qui augmente la puissance. Et la tristesse, c'est le contraire, c'est ce qui diminue notre puissance d'agir. Et quand on voit les pathologies psycho-physiologiques qui naissent dans notre société, que ce soit le burn-out dans le monde du travail, on voit bien que c'est quand même lié à la tristesse, c'est quand même une société plus triste, et c'est pas le cas effectivement des Kunas. Ils se marrent tout le temps, ils déconnent, ils se disputent, ils se baignent beaucoup, c'est un autre rapport à la nature, et c'est un autre rapport à la joie. Je veux pas les glorifier, parce qu'il y a un vrai problème chez eux, qui est l'intégration à la société occidentale, la montée de l'alcoolisme, je veux pas les béatifier, hein. Ils ont des vrais problèmes par ailleurs, mais il y a une partie d'eux, je ne sais pas si c'est une petite ou une moyenne partie, qui est très militante, et on voit bien qu'il y a une énergie que je ne vois pas dans notre société. Nous, on a une énergie technique, on n'a pas une énergie vitale et vitaliste, ça se voit.
Est-ce que leur société ou les sociétés en général doivent répondre à des besoins humains? Je pense à, tu vois, se nourrir, est-ce qu'on se met en groupe pour se nourrir, pour avoir un toit sur notre tête, pour...
Ouais, c'est une vraie question, et qui pose une question de vocabulaire. Moi, je distingue le besoin, le désir et la raison. C'est-à-dire que le besoin, c'est vraiment physiologique. Il faut manger, il faut boire, il faut dormir, sinon on meurt. Donc on peut faire la grève de la faim pendant quelques semaines, mais au bout d'un moment, on décède. Le désir, c'est une tendance de l'imagination. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des désirs quand nos besoins sont satisfaits. Moi, j'ai vécu dans un pays en guerre et j'ai rencontré des gens très pauvres hein, qui ne savaient pas ce qu'ils allaient manger dans les heures suivantes. Ils n'ont pas de désir, hein. Ils sont dans la satisfaction des besoins. Donc tu te doutes bien que dans une société hyper consumériste comme la nôtre, nos besoins sont tous archi-satisfaits. Quand on voit l'Amérique, qui est le modèle de notre société occidentale, ils bouffent trop, ils boivent trop, et ils ont donc des problèmes de santé qui en viennent. Le degré de mortalité augmente aux États-Unis en partie à cause de ça. Mais du coup, il y a du désir, puisque le besoin est satisfait. Et le désir, c'est le produit de l'imagination. Et alors là, y a deux types de désirs. Il y a des imaginaires finalement très conventionnels. Donc, on va se mettre devant son ordinateur et faire un jeu ou son téléphone ou regarder une vidéo, et on reste très passif parce que c'est un imaginaire très programmé dans un système économique qu'on connaît, où il s'agit de gagner de l'argent, et l'individu finalement, il ne satisfait pas un besoin. Il satisfait un désir, mais ça reste quand même, je veux pas dire un esclave, parce que ce serait péjoratif, et l'esclave avait peut-être plus de liberté qu'on en a aujourd'hui dans notre addiction à ces moyens de communication, mais c'est pas quelqu'un de très libre. Et la troisième notion, c'est la notion de volonté, qui elle est une tendance de la raison. Et la volonté, elle peut nous faire aller jusqu'à refuser un désir, refuser une imagination pour aller vers la raison. Alors, par exemple, pour certaines causes, il y a des gens qui vont faire la grève de la faim, c'est-à-dire qu'ils vont refuser un besoin pour valoriser aux yeux de la société, non pas un besoin, non pas un désir, mais un projet qui va valoriser la société. Il y a des gens qui meurent comme ça. Alors, il y en a plein, il y a eu des guerriers, il y a eu tout ce qu'on veut. Je prends l'exemple de la grève de la faim pour montrer, ce qui se passe dans notre société, ce qui n'était évidemment pas le cas au Moyen Âge. Mais voilà la différence entre les trois. Donc je parlerai plus, moi, de la volonté, que je trouve plus intéressante et plus philosophique que le désir qu'on a en commun, pas, pardon, que le besoin qu'on a en commun avec les animaux. Le désir, c'est vraiment le médium entre les deux. Il y a des gens qui ont leurs besoins satisfaits, qui ont beaucoup de désir, mais n'ont pas de volonté. Ils ne sont pas des gens volontaires, parce qu'ils sont très conformistes, au fond.
On peut créer une volonté commune?
Ah, ben ça demande beaucoup de volonté, et pas de la part que d'un individu. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui militent pour ramener les gens à eux, non pas comme individu, mais comme volonté. Oui, ça, je suis archi d'accord. La volonté, c'est un partage de la raison, c'est absolument pas un diktat de la raison. Mais c'est pas facile. Si on prend la question écologique en ce moment, moi, j'apprécie pas du tout les partis écologistes, pour une raison simple, c'est que ce sont des partis, c'est-à-dire qu'ils sont dans un ancien modèle. Et on voit bien qu'ils échouent. Et je pense qu'en France, si on a un gros problème nucléaire, ils monteront. Mais c'est à peu près le seul motif. Alors que je pense que si l'écologie est rationnelle, c'est justement parce qu'on doit faire comprendre à tout le monde qu'il a son rôle à jouer pour la prolongation de l'espèce et que ça ne doit pas passer par le politique, par le pouvoir, mais ça doit passer justement par le partage de chacun et, si possible, assez rapidement. Il suffirait que les gens soient d'accord pour telle et telle chose pour que notre société change en une décennie. C'est pas le cas. Les politiques sont obligés de faire des compromis. Enfin, l'ancien ministre de l'écologie, journaliste qui a démissionné, il a bien compris que ça ne pouvait pas passer par là. Tu vois de qui je parle?
Bien sûr. Je pense que tout le monde voit. Donc, la volonté plutôt que le désir.
Le désir est ce qui succède au besoin, mais c'est aussi plus un pouvoir de l'imagination que de la raison. Et je pense que par l'imagination, on va trouver évidemment tous les arts pour réfléchir à notre société, mais on va pas passer à l'acte pour la modifier. C'est bien d'aller voir un film qui nous fait réfléchir sur les burn-out, sur les contradictions, sur les malaises, sur l'avenir à court terme de notre société qui va disparaître, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen. C'est pour ça que passer à la volonté, ce n'est pas faire un discours philosophique, hein. C'est inviter les gens à se dire on n'existe pas comme individu, on est dans le partage, et la volonté, c'est justement cette capacité à s'opposer au narcissisme individuel que nos sociétés occidentales survalorisent pour arriver à discuter, à se poser, à créer des jardins en bas de chez nous, dans la résidence ou au bord de la route, et à pas faire venir la bouffe par avion, etc. etc. C'est tout un système qu'on pourrait faire assez facilement et on redévelopperait de la sociabilité, de la socialisation, de l'affectivité. Et si je reprends mon exemple de l'individualisme forcené dans lequel on vit, on voit surtout que c'est une solitude forcenée. On voit les gens qui. On les voit dans la rue sur leur visage, alors ils partent avec leur poussette ou leur sac, parce qu'il faut plus. Le supermarché ou l'hypermarché ne donne plus de sac, ils vont. Donc ils vont avec leur sac, ils vont au truc, ils le remplissent, ils reviennent, et on se dit. Qu'est-ce que c'est con cette vie-là? Il serait pas mieux de descendre avec leurs voisins, d'aller arroser le jardin, qu'un jardin qui est plus un jardin géré par d'autres, mais où on fait des légumes, où on fait des fruits, où on papote, où on arrête de bosser, où on bosse sans avoir l'impression de bosser justement, où on a un rapport à la nature qui est pas celui de l'enfermement dans lequel on vit dans le béton dans nos villes. Donc voilà, c'est quand même ça l'idée de la volonté. Ça suppose d'éclipser l'individu et d'aller au-delà de l'imagination, parce que l'imagination, c'est vrai que c'est une compensation des besoins. Tous nos besoins étant satisfaits, on en fait naître d'autres. C'est toute la mercatique de l'art c'est Hollywood, hein. Mais je pense que l'art, le vrai art, celui qui n'est pas commercial, il est évidemment beaucoup plus provocateur et donc du coup beaucoup moins suivi, écouté, aimé, discuté. C'est un peu ça le problème de l'art. Et donc le degré au-dessus de l'art, pour être un peu hégélien, ce serait la raison, je vais dire la philosophie, mais le simple fait de partager nos tendances vitales, nos tendances libidinales et puis nos tendances sociales, sociétales, rationnelles. Et ça, je trouve que on développe pas assez ça sur des petites choses. Le paradoxe, il est là, c'est que la raison, c'est très élevé quand on est capable de descendre. Et quand on est dans le tout à l'ego, quand on est dans le culte de l'ego, ben, on n'est pas dans la rationalité. Est-ce que Emmanuel Macron, qui a fait des études de philo, qu'il a foiré pour faire une carrière administrative, qu'il a quitté pour faire une carrière politique, est-ce que, il a une grande rationalité? Ben, je crois pas. Elle est juste technique, mais la vraie rationalité, ce serait justement de se mettre en bas. Là, il se met un peu à l'écoute, il est un peu forcé, mais il y a quand même toujours ce même discours qui est un peu hautain et techniciste. Et je pense que la vie sociale postmoderne, c'est justement nier l'individu et développer tous les partages possibles, à pied, à cheval, en voiture, dans les jardins. C'est une vie plus simple aussi. Aujourd'hui, croire que le concept de vacances, les gens me disent, ah, vous êtes parti où en vacances? Dans les médias, ils me posent cette question. Eh bien, je leur dis, je suis pas parti. C'est le propre des vacances, c'est de pas partir. Parce que quand on part en vacances, on est dans le système consumérisme. C'est un rythme qui est imposé par la société. Donc moi, j'ai rien fait pendant les vacances. Et ça, c'est des vraies vacances. Oui, mais c'est montré, hein, ce qui fait la différence entre le désir, qui au fond rentre dans un moule, et la volonté, qui peut être un contre-courant, mais qui pourrait créer un nouveau courant où les gens se partagent les uns les autres, plutôt que de se diviser les uns les autres en louant un billet d'avion, en louant une baraque, et puis en revenant, en montrant les films, en disant je suis allé en vacances. Il y a peut-être une autre vie possible que ça, mais je sais pas si on. Moi, je pense qu'il y a deux solutions. Soit on en prend conscience assez rapidement, soit parce qu'il y aura des catastrophes, on comprendra que la vraie raison de la vie, c'est pas d'obéir au désir et à ses modèles libidineux, de désirade qui nous écarte de nous-mêmes au sens collectif, pas au sens individuel.
Tu dis que t'as dit à un moment que ce serait facile de changer. Comment on pourrait dire? C'est pas un état d'esprit. C'est quoi? C'est changer de mode de.
C'est vraiment ce que j'ai vécu chez les Indiens, hein. Ils ont une vie simple. Mais dans notre société, c'est super difficile d'avoir une vie simple. Ce qui est facile, c'est d'avoir une vie difficile. C'est-à-dire une vie où on se fait chier, une vie où c'est compliqué, une vie où il faut défendre notre image. Moi, j'interviens beaucoup en entreprise et je vois bien, beaucoup de gens veulent me parler après pour me dire, en fait, ça fait du bien de vous entendre parce que moi, en fait, je vis derrière un masque. Je fais croire à mon supérieur hiérarchique ou à mes inférieurs hiérarchiques que je suis ceci et cela, mais en fait, je suis pas ça du tout. Je suis beaucoup plus que ça. C'est pas qu'elle est pas ça du tout, la personne, mais elle est beaucoup plus de choses. Et il faut qu'elle rentre dans un créneau. Alors, la vie dans l'Antiquité, elle était aussi très moulée, hein, entre l'esclave et puis le noble chez les Romains. J'idéalise pas du tout. Je dis juste que. Apparemment, c'est pas politique, mais c'est pire, c'est idéologique. L'idée qu'on doive exister comme individu en donnant aux autres une image de soi qui soit claire, où il n'y ait pas d'ambiguïté, où il n'y ait pas de mystère, qui est évidemment 90% d'ambiguïté en nous. Enfin, il faut lire Freud un peu. Voilà, c'est une autre conception de la société, une société qui accorderait une curiosité pour la variété plutôt que pour l'uniformité. Et l'uniforme, c'est pas rien, hein, c'est militaire, et puis c'est le costard pour aller bosser, hein, c'est faire rentrer dans un moule. Le jean, c'est le costard américain, mais c'est le costard postmoderne. C'est pas cher, on peut le foutre 2 ans sans le laver, mais en même temps, on rentre dans un moule. Je dis pas qu'il faut aller à poil au boulot, mais il faudrait quand même qu'on reconnaisse la diversité, la variété, le
Est-ce que c'est la
pluriel.
reconnaître ou c'est aussi la permettre? Parce que des fois, j'ai l'impression que on est tellement pris par il faut faire de l'argent et donc pour faire de l'argent, il faut rentrer dans certains codes pour avoir un travail. Donc est-ce que c'est aussi permettre cette diversité par nos structures ou?
Ah, mais c'est une vraie question sur l'avenir de notre société libérale ou capitaliste, peu importe les deux termes. On s'aperçoit qu'on a vidé les campagnes, pour fabriquer des ouvriers. Donc avant, 90% de la population travaillait la terre et travaillait en fonction du climat. Donc ils travaillaient beaucoup, mais pas tout le temps, hein. Quand il y avait l'hiver en Europe, c'était difficile d'aller cultiver le terrain. On en a fait des ouvriers, et puis maintenant les machines remplacent les ouvriers. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans les 50 ans qui viennent, dans la mesure où toutes les machines pourront faire les boulots qu'on fait, à commencer par prof, qui a plus aucun sens hein, à l'heure actuelle. Et donc, est-ce que, alors ça, on peut le prendre de manière interrogative et angoissante, mais on peut se dire, c'est une bonne occasion pour arrêter de travailler. Par exemple, je reviens à mes Indiens, les Kuna, ou les Guna, parce qu'ils ont changé la lettre G, la lettre K par la lettre G.
Ils ont rebrandé, tu veux dire?
Ouais. Mais en réalité, quand je parlais du travail, je lui dis, tu fais quoi, toi, comme job? Il éclatait de rire, Pablo, et il me disait, mais nous, on bosse pas, nous. Nous, on vit, nous. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas con. Et si on introduisait. Et moi, je suis complètement pour cette ligne-là. Allez voir dans les petits peuples qui sont en train de disparaître, hein, puisqu'il y a une langue qui disparaît tous les 15 jours. C'est énorme. Je sais pas si on va parler chinois ou indien. Anglais, c'est sûr que non, en tout cas, dans 300 ans. Ça, c'est sûr. C'est ça qui est marrant. D'ailleurs, tout le monde apprend l'anglais, mais au fond, c'est une langue qui va disparaître, puisque les Occidentaux vont disparaître. Je trouve génial, génial, et en même temps, je vois qu'on ne le fait pas, mais qu'on aille. Colporter, visiter, rencontrer ces petites sociétés pour leur piquer des trucs. Enfin, moi, j'ai écrit mon apologie de la punition en disant qu'il fallait complètement changer de système judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord penser la punition et ensuite on pensera la justice. Et nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire que d'abord on pense la justice, le droit, ça c'est des bons élèves hein, qui font du droit, c'est la bourgeoisie qui va faire des études de droit, puis après ils deviennent juges ou avocats, chacun son camp. Et puis après on fout les autres en prison et là on s'en fout. C'est le côté pauvre hein, de la justice. Je sais parce que j'y suis allé 2 ans. Et moi je dis, il faudrait que.
T'es allé 2 ans en prison?
Oui, mais j'ai tué personne. De toute façon, c'est beaucoup plus que ça quand on tue quelqu'un. Je suis allé faire des cours de philo là-bas,
Ah, d'accord.
avec ceux qui, eux, ont tué plus de 2 personnes, et qui étaient des amours par ailleurs, et je ne les jugeais pas du tout sur ce qu'ils avaient fait, mais sur la mauvaise adaptation de notre société à punir. Et les Indiens Kuna, chez qui je suis allé, donc ils sont évidemment moins nombreux, ils n'ont évidemment pas de prison, mais ils punissent d'une autre manière, et ils punissent pour éviter de désintégrer. Claude Lévi-Strauss hein, disait ça. Il vantait le mérite du cannibalisme. Lui qui a beaucoup étudié les Indiens au Brésil et en Amérique du Nord. Mais le cannibalisme, ça se mérite, c'est que quand on se bat entre deux tribus, donc on en capture un, une fois qu'il est capturé, on lui offre toutes les femmes qu'il veut pendant un certain temps, après on le tue, on le mange, et avant de le manger, on invite sa femme de l'autre tribu pour qu'elle le mange en premier. C'est-à-dire qu'il y a un honneur reconnu à l'autre. Qui fait qu'il est valorisé, il n'est pas du tout dévalorisé, mais nous on a une pudibonderie qui va mal avec ce que je disais hors micro tout à l'heure sur cet infanticide masqué qu'est l'avortement, et par ailleurs on veut absolument protéger tous les individus parce qu'on a un culte de l'individu, et on voit bien que cette société elle est très étrange, donc on devrait aller piquer chez ces petits peuples qui sont en train de disparaître, plein d'idées, je vais prendre un exemple, mais... Je cherche le pays d'Afrique où il y a eu 1 million de morts dans les années 80, le Rwanda. Je sais pas si tu te souviens du Rwanda. Donc, 1 million de morts, et à la fin, la justice occidentale arrive avec un tribunal international et décide de juger les criminels. Donc, elle en a plusieurs milliers, et ils ont calculé au bout d'un moment que ça prendrait. Plus de 150 ans de pouvoir juger les gens correctement selon le modèle. Et ils sont revenus à leur modèle local, qui est un modèle où le criminel reste dans son village, il y a des discussions dans la famille, il y a des humiliations, mais c'est pas quelqu'un qu'on exclut. Eh oui, mais je trouve cette morale et qu'on croit arriérée parce qu'elle passe pas par le droit, mais je trouve que c'est le droit qui nous arriérise. Alors c'est pas arrière avec un Y, hein, arriérise avec 2 R,
Mais c'est
mais
possible que dans une société où justement on n'est pas dans l'individualisme, parce que il faut
évidemment, mais
encore avoir ces groupes qui sont capables
et
de.
c'est marrant ta question parce qu'en fait elle a un blocage à mes questions alors qu'en fait c'est la solution. Si on veut désindividualiser et rendre aux personnes finalement leur variété, leur richesse, Il faut changer de droit, il faut changer de justice, il faut casser le droit et il faut qu'il y ait des relations humaines qui soient bien plus riches que celles qui soient sans arrêt médiatisées par l'État, via un juge, via des règles. Enfin, régulièrement, on invente des règles pour tout et n'importe quoi. Hein. Est-ce qu'on pourra un jour avoir le droit d'avoir tel chien? Est-ce qu'on pourra, par le biais de la biotechnologie, lui faire un enfant? Enfin, tout va passer par le droit. Non, mais c'est ridicule, ce monde est ridicule. Mais c'est pour ça que avant que ces peuples, ces peuplades, ces anciens gentilshommes disparaissent, on devrait aller les fréquenter, leur piquer plein d'idées. Hein, parce que quand on voit qu'au Rwanda, ils sont retournés dans leur justice pour arriver à faire quelque chose d'efficace et de pragmatique, c'est que c'est pas seulement efficace et pragmatique, c'est plus intelligent que notre justice. Quelqu'un de justice injuste, au fond, moi j'y suis allé en prison, il n'y a quasiment que des immigrés ou des gens issus de l'immigration. Donc c'est un moyen de sélection, ce n'est pas une punition, c'est une farce cette justice. Donc voilà pourquoi moi je serais pour ce métissage intellectuel entre des peuples qui sont en train de disparaître et nous qui sommes aussi en train de disparaître, mais nous on n'en a pas conscience. Nous, on pense qu'il faut qu'on vive jusqu'à 120 ans et qu'on fasse intervenir toutes les techniques, toute la médecine pour cela. Eux n'ont évidemment pas cette question-là. Il y en a d'ailleurs qui vivent très vieux, mais ils vont disparaître parce qu'ils sont écrasés par la corrélation avec la société occidentale qui les bouffe et qui les intègre. Et donc, qui les désintègre en les intégrant dans cette société occidentale. C'est un peu ça, hein, je trouve que c'est plus la dystopie, ça. L'utopie, ce serait d'arriver à mélanger toutes ces cultures qui restent et qui vont s'unifier. Il faut savoir que le blé, le maïs, le riz, il y en avait des milliers de formes, de variétés, il y a quelques décennies. Et on est en train de les appauvrir. Et on va faire la même chose pour l'être humain, c'est quand même dommage. Moi, je suis pour la variété.
Ah, tu me dis ça, c'est vrai que quand je pense que... moi, j'ai 43 ans et quand j'étais petite, ma grand-mère portait la coiffe, qu'il y avait une langue qui avait... Et que tout ça a disparu en
tellement
peu de
temps. Les Bretons, vous êtes plutôt dynamiques sur la langue.
On redynamise, mais on l'a perdu pour la ressusciter vraiment avec les... Mais vraiment... oui, il y a une uniformisation, donc c'est tellement riche le monde que ça, c'est quelque chose qui me rend triste un peu, de me dire qu'on est en train de perdre cette diversité.
Oui, mais ce n'est pas une diversité seulement linguistique, hein. C'est les animaux, c'est les plantes, c'est la pollution
bien
qui
sûr.
Fait tout disparaître. Donc ce serait quand même bien qu'à un moment donné, on y réfléchisse tous, qu'on ait la volonté de changer à notre échelle. Moi, c'est quand même ça mon idée. Il ne faut pas essayer de changer à l'échelle de 10 ans ou de l'humanité, il faut changer à son échelle. Et on peut tous faire des petits efforts, tu en fais, j'en fais, beaucoup hein, au fond. Et puis c'est ça qui paiera, je pense. Et puis à un moment donné, les efforts sont tellement consensuels qu'ils feront tomber des trucs qui nous sont imposés et qui ont juste une finalité économique et qui est dangereux. Donc je ne vais pas donner de nom et d'exemple, mais enfin on le sait tous, hein, tant au niveau de la bouffe qu'au niveau de l'aviation, qu'il y a plein de choses inutiles qu'on fait, mais qui font marcher un marché. Donc il suffit de plus le faire pour qu'à un moment donné, ce marché s'écroule et que quelque chose revienne.
Mais donc, il ne faut pas penser de système.
C'est une vraie question philosophique, la différence entre le systématique et le systémique. Mais je pense que le systématique, c'est l'idée que on peut tout embrasser, tout classer et tout comprendre à partir de ce lien que les choses ont les unes avec les autres. Et en réalité, le systémisme est plus complexe puisqu'il voit plusieurs niveaux de causalité et en fait, tout ce qui est un effet est aussi une cause et une cause rétroactive. Et je pense que tout est en relation avec tout et inversement. Et à partir du moment où on a compris ça, qu'on était un atome, on se modérise et en même temps on est plus actif parce qu'on va être réceptif aux effets positifs qu'on peut avoir par nos actes, même s'ils ne sont pas reconnus comme tels. Ça, c'est pas grave. La reconnaissance, de toute façon, pourquoi on aime la reconnaissance? Pour être reconnu comme un individu. À partir du moment où on s'en fout, on fait les choses et la vie continue.
Alors, on arrive au bout là.
On est au bout du bout.
Au bout du temps, surtout. Qu'on a.
On est au bout de l'utopie, ça veut dire que le monde va changer, c'est ça qui est chouette.
Je me suis constitué deux questions. Je pensais que ça allait être un questionnaire systématique, mais il va devenir systémique. Je pense qu'il va évoluer en fonction des interviews et peut-être même disparaître. La première question est, quelle question devrais-je me poser pour construire mon utopie?
Est-ce que la vraie écologie, elle est politique ou est-ce qu'elle est une question personnelle? Et personnelle au sens où on comprend qu'on n'est pas un individu, mais qu'on est en fusion avec la nature et la nature qui inclut la culture, puisque c'est une manifestation de la nature, la culture. Hein, moi, je n'oppose pas les deux, contrairement à certains philosophes. Donc, je pense que ce serait ça la question. Est-ce que l'écologie, c'est un engagement politique ou est-ce que c'est un engagement personnel, discret, comme la gentillesse, finalement, c'est des petits gestes qui ne mangent pas de pain, mais qui sèment quelque chose qui a à un moment donné une positivité que je ne vais pas forcément percevoir, mais qui est déjà positive par l'élan que j'ai. Voilà.
Deuxième question, si tu pouvais donner une consigne à l'humanité
Ah oui,
entière et tout le monde va la suivre, hein,
Bah
quelle
ça genre
serait-elle?
tout le monde, ça veut dire que tu auras 7 milliards et demi de gens qui vont t'écouter, donc je vais essayer d'être clair, et je vais pas le faire en anglais, mais faire des petits gestes pour l'avenir. Ça c'est vraiment un effort mental à faire parce que dans une société très individualiste et narcissique comme la nôtre, on a l'impression que tout ce qu'on fait doit être vu. Et je dirais que le charme, avant de mourir, c'est de sortir de cette visibilité à laquelle on croit pour faire des choses pas invisibles mais discrètes du coup. Et donc faire des petits gestes qui vont vers l'avenir sans se vanter aux yeux des autres, mais tous les jours, faire un petit geste qui est un truc utile pour la planète, je trouverais ça pas mal.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
La nature qui inclut la culture. C'est-à-dire qu'il faudrait que la culture sache qu'elle n'est qu'une émanation de la nature et qu'il ne faut pas détruire celle-ci, c'est tout.
Wow. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu à mes nombreuses questions.
Merci à toi, chère Johanna, et bonne continuation.
Merci. À la fin de cet entretien, je me suis sentie un peu déstabilisée. Je me suis rendu compte à quel point les mots peuvent traduire une pensée et donc j'ai peut-être pas suffisamment de vocabulaire ou de finesse dans mon vocabulaire, non seulement pour vraiment comprendre immédiatement ou pour formuler ma pensée. J'ai trouvé très intéressant cette notion d'individu et de personne, cette peut-être volonté à vouloir se particulariser plutôt que s'individualiser. Et en même temps, je me retrouve avec des sensations différentes quand on parle de... On est dans une société où il faut rentrer dans le moule et en même temps on est dans une société qui pousse à se singulariser. Donc toutes ces choses-là se mélangent un peu. Ce que j'ai envie de retenir pour la construction de mon utopie, c'est quelque chose qu'on oublie peut-être. C'est le plaisir qu'on a d'être ensemble. On fait société parce qu'on a aussi plaisir à faire et à être ensemble. Donc développer le partage. Et cette énergie vitale qu'en effet, des fois, on a l'impression qu'elle s'échappe. Et il a également prononcé les mots de cohésion spirituelle. Et ça, j'en prends note, je le marque dans un petit coin de ma tête, parce que j'aimerais aller explorer ce côté, les religions, la spiritualité. Est-ce que... J'avais déjà fait une interview, d'ailleurs, avec un paléo-anthropologue il y a longtemps, sur la spiritualité. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais explorer. La prochaine interview sera peut-être l'occasion idéale pour ça, puisque suite à cet entretien avec Emmanuel, nous avons parlé des Indiens. Et j'ai pensé tout de suite à une femme qui m'a marquée par sa sagesse et sa beauté. Elle s'appelle Rama, je l'ai rencontrée il y a peut-être 10 ans. Dans une boutique qui à l'époque s'appelait Voy Alimento et aujourd'hui s'appelle Sol Semilla. Et Rama, elle est ethnologue, anthropologue et elle a vécu avec les Indiens Shipibo. Je me dis aujourd'hui, quand je vois les jeunes générations collées à leurs écrans, je me dis c'est fou parce qu'ils n'ont pas connu cette vie où on allait frapper chez notre voisin, où on jouait dans la rue, où on ne pouvait pas nous joindre aussi facilement, où on n'avait pas une bibliothèque au bout des doigts. Et des fois, je me dis que ça structure notre esprit d'une certaine manière. Et moi, je sens bien en écoutant Emmanuel là que j'ai du mal à comprendre certains concepts où il faut que je dépoussière ou que j'enlève des branches pour comprendre. Et donc, quoi de mieux qu'aller voir comment une culture très différente de la nôtre regarde les choses, comme par exemple les Indiens Shipibo. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à suivre les indices de chaque entretien et voir où ils nous mènent. Très bonne semaine à toutes et tous.